Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Lorsque je reçois une femme d'aujourd'hui qui ramène tout son bagage, toute sa vérité, toute son honnêteté d'être et de femme, eh bien, je peux simplement dire merci. On y va pour les détails.
Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Rita Tahré, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va la Rita?
Eh bien, écoute, ça va bien. Comme je te dis, je flotte avec la vague de la vie.
La vague de la vie. L'océan de la vie.
Le plus tranquillement possible, exactement. Alors, le plus tranquillement possible.
C'est très joli ce que tu dis, le plus tranquillement possible. Je vais te poser une question. Est-ce qu'avant, tu avais tendance à aller contre la vague?
Ben évidemment, il faut bien que je n'est-ce pas ce qu'on dit. Oui, j'avais tendance à... Je pense que très tôt, on est conditionné pour avec cette croyance qu'on contrôle et on télécommande un peu notre vie. Mmh. Il suffit d'avoir des objectifs et de construire un petit chemin pour y aller et que tout ira comme on l'a imaginé dans la tête. Mmh. Et puis, je crois que les expériences de la vie font que, du coup, on se rend compte que c'est pas une autoroute, qu'il y a des chemins de traverse, des petites bretelles comme ça. Il faut sortir de l'autoroute pour y revenir. Et,
mais on n'a pas le choix, parfois.
Eh bien oui, on n'a pas le choix, ça c'est clair. Mais je pense qu'on met tous, l'humain met beaucoup de temps à comprendre, en tout cas dans son process de vie, que finalement, de temps en temps, on a besoin de courber un peu le dos. Et c'est joli hein, de courber le dos, pas dans le sens de baisser la tête, mais de flotter avec les choses. De toute façon, moins il y a de résistance et plus ça se passe.
Oui,
voilà comment moi j'ai un peu vécu les années qui passent. Voilà.
Mais en même temps, Rita, aujourd'hui, toi, tu es bien outillée, en fait.
Écoute, j'ai eu la chance, ou le luxe, ou je ne sais pas, de pouvoir aller très très tôt vers des outils. Tu sais, j'étais en train d'y penser en pensant à cet échange entre nous. Mmh. Et très tôt, très 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 tôt dans ma vie, j'ai été confrontée à des petites expériences qui ont fait que très vite j'ai compris qu'il fallait donner un sens à tout ça. Alors, il n'y a pas un seul sens à la vie, c'est nous qui inventons un sens à chaque fois. Et je crois que régulièrement dans ma vie, très tôt, j'ai compris qu'il fallait que je trouve des outils, des trucs. Alors quand j'étais plus petite, ça devait être des trucs un peu magiques et qui faisaient que les choses que je vivais et à travers lesquelles je passais avaient un sens pour moi. Alors les choses très agréables, comme celles qui le sont un peu moins dans la vie. Mais je pense que très vite, j'ai compris qu'il fallait ça. Et je me suis mariée assez tôt et finalement... j'ai eu la chance de ne pas être obligée de travailler, c'est-à-dire travailler quotidiennement avec des horaires. Et j'ai pu aller vers tout ça, vers le psychocorporel. J'ai fait beaucoup, beaucoup de formations, beaucoup de rencontres aussi. Je crois que dans la vie, ce sont les rencontres qui font que tu arrives à avoir des outils, que tu remplis ta boîte à outils, comme on dit. Mmh. Je fais de très, très belles rencontres. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ouais, je suis outillée, mais souvent le cordonnier, je crois, comme on dit, est le plus mal choisi.
Alors, avant de faire les formations et tout ça, toi, tu étais dans une autre carrière, dans une autre formation. Tu as fait pas mal de reportages, tu as beaucoup écrit, tu as enseigné aussi. Et après, tu es arrivée à tout ce qui est psychothérapie, sophrologie.
Exactement. Au départ, moi, je suis une littéraire, une rédactrice, si tu veux, en bonne et due forme. Et puis, je me suis rendu compte que tout était trop terre-à-terre, ce que je faisais. Et j'ai toujours eu très tôt, je pense que c'est un peu aussi des natures, ce questionnement sur moi, qui je suis, qu'est-ce que je fais là, quel est mon lien avec tous ces gens autour de moi. Et si tu veux, j'ai fait une rencontre d'une sophrologue qui m'a appris qu'on avait un corps et que le corps était relié à l'esprit. Et ça m'a, comment te dire, c'est comme quand tu comprends quelque chose mentalement, mais que dans ton corps, tu prends conscience que waouh, c'est vrai. Et avec elle, je suis allée sur ce chemin de la sophrologie. Et puis, j'ai très, très vite eu envie de me former et de faire goûter aux autres aussi. Tu sais, toujours cet esprit de partage. J'ai enseigné aussi. Et pour moi, transmettre, partager, apprendre de chez les autres et transmettre, c'est quelque chose de... C'est une vraie valeur chez moi. C'est quelque chose que j'adore.
Alors, tu as dit quelque chose... Oui, pardon, je te laisse finir.
Non, ça a été la sophrologie. Hein, au départ, je ne savais même pas que ça existait. Puis après, j'ai compris ce que c'était. Je me suis formée et voilà, j'ai goûté à ça. Et ça a été vraiment la porte d'entrée. Voilà.
Alors, tu as dit... D'abord, j'ai envie de te poser une question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu pratiques? Parce que tu as dit, je n'ai pas eu à travailler, j'ai fait beaucoup de formations.
Oui.
Aujourd'hui, est-ce que finalement, tu te dis, bon, ben, j'ai tout ça entre les mains, j'aimerais bien en faire bénéficier d'autres personnes?
Oui, totalement. Ce souci de partage, de transmission, je l'assouvis dans les formations que je donne. Je forme les futurs psychothérapeutes. Moi, je suis madame pratique. Je les forme sur leur posture. Ensuite, j'ai un cabinet ici à Casablanca. Je reçois des gens. Je fais aussi d'ateliers.
Oui.
Voilà, exactement, d'ateliers. Alors maintenant, je me suis bien sûr... je suis allée beaucoup plus loin que la sophrologie. Je suis art-thérapeute, superviseur, psycho... Enfin, tout ça, ce sont que des titres, si tu veux. Mais oui, je travaille. Je suis passée par un divorce un peu amer et houleux, comme... peuvent l'être 90%, je pense, des divorces dans le monde. Et ça aussi, ça m'a, en tant que femme, hein, j'en parle, c'est allé me pousser à aller rechercher mes ressources qui me sont très personnelles. Et oui, j'ai fait toute une réadaptation de ma vie, de mon quotidien. Ça aussi, ça m'a poussée à donner un sens à la vie, un autre sens, à réinventer un autre sens à la vie. Et souvent, ça se fait par des petites impasses et c'est pas très agréable. Mais après, qu'est-ce qu'on peut être fier de soi? C'est extraordinaire.
Alors, justement, merci de me tendre la perche parce que tout à l'heure, tu as dit, quand je t'ai dit, bon, mais aujourd'hui, tu es quand même bien outillé pour traverser la vague de la vie, comme tu l'as si joliment appelé. Et tu m'as dit, bon, mais tu sais, le cordonnier est toujours le plus mal chaussé. Et alors, voilà, donc finalement, ce divorce vécu dans la douleur, en fait, traversé dans la douleur, même quand on est outillé, ça reste compliqué, un divorce.
Oui, alors ça...
Pardon
ça
de t'interrompre, Rita, tu sais, dernièrement, j'ai posté une vidéo sur Instagram et un ami à moi qui a divorcé un homme m'a dit c'est une bombe atomique dans la vie d'une personne.
Oui, totalement. J'adore la métaphore. C'est une bombe atomique dans le sens où, tu vois, surtout quand ce sont des mariages qui sont sur la durée, qui sont longs, tu te forges toute une identité autour de ce lien-là. Tu es madame ou monsieur Flynn, tu es l'époux d'eux, tu as une figure de référence ou de sécurité, comme quand tu es enfant, ta mère ou la personne qui s'occupe de toi est ta figure de sécurité. Et bien dans les mariages, ton compagnon ou ta compagne devient ta figure de sécurité. Et donc quand cette figure n'est plus là, quand ce lien n'est plus là, eh bien tu as intérêt à avoir construit autour de toi soit un réseau, soit à l'intérieur de toi, des choses qui font que tu trouves ta sécurité. Et souvent, par paresse ou par habitude, on ne le fait pas. Et quand le divorce arrive, eh bien, on est un peu flottant dans ce néant, à se dire, néant c'est un mot très fort, mais oui, à se dire, mais voilà, quand ça ne va pas bien, je vais vers qui? Ça fait 10 ans, 5 ans, 30 ans que je vais vers cette personne-là, juste pour partager, pour trouver des solutions à deux. Je vais où maintenant?
Ok, alors souvent, j'ai envie de te poser des questions de femme, vraiment de femme à femme, et puis finalement même
dis-moi.
Les hommes concernés, parce que ce commentaire est venu d'un homme. Ça veut dire quoi, la figure de sécurité? Est-ce que c'est la sécurité financière? Est-ce que c'est la sécurité émotionnelle? Est-ce que c'est quelle sécurité? Et finalement, si cette sécurité est là, et si cette figure est tellement sécurisante, qu'est-ce qui fait qu'on se sépare? Et j'ai une autre, une troisième question.
Oh là là.
En fait, je pose la question à la femme touchée, mais aussi à la thérapeute, les deux. Et en même temps, est-ce que, en général, la figure de sécurité, c'est l'époux, ou bien même l'épouse représente la figure de sécurité pour l'époux? Voilà, je t'ai donné tout ça. À toi la réponse.
Oui, j'entends bien tes questionnements. Et d'après ma petite expérience, dans un mariage, en tout cas de la façon patriarcale dont le mariage est présenté, on est conditionné pour ça, eh bien l'autre dans le mariage devient un peu ton double, ton miroir. Non seulement il est ton miroir, mais il est aussi ton point de repère dans la vie. C'est-à-dire que tu vis toutes tes expériences dans la journée, puis le soir tu te retrouves face à cette personne à qui tu te confies, qui construit avec toi. Généralement, vous avez des objectifs dans la vie qui sont communs, notamment les enfants, le crédit de la maison, etc., je ne sais quoi d'autre. Donc, il y a une forme de familiarité qui se fait avec cette personne, une intimité qui est et émotionnelle, et financière, et sociale. C'est-à-dire que toute ton identité, sur toutes les strates de ton identité, tu es relié à cette personne-là. Et c'est une figure de sécurité dans le sens où ce n'est pas la personne qui va te trouver la solution à chaque fois, mais c'est la personne vers qui tu vas te diriger à chaque fois que quelque chose va bouger. Bien sûr, nous avons nos mères, nos sœurs, nos copines, mais finalement, l'intimité la plus profonde, c'est celle que tu as avec cette personne-là. Et si tu veux, pourquoi est-ce qu'on se sépare? Eh bien, parce que les expériences de vie, parce qu'on est un couple, mais on est deux personnes à part. Et si tu veux, on ne peut pas tout le temps être synchro avec son compagnon, sa compagne. Il y a des expériences de vie, des désirs, même des changements hormonaux hein, pour les femmes, et notamment, on est en train de le prouver scientifiquement pour les hommes aussi, qui font que tous ces objectifs communs, eh bien, deviennent un peu doubles. Il y a une forme de dualité dans les objectifs qui se fait. Voilà. Alors, on peut rester très amis, au fond, et ça, ce sont les séparations les plus belles. On reste amis et on reste dans un peu la sacralisation, on honore ce qu'on a vécu dans le passé. Et puis, il y a la plupart des séparations, ça se fait dans le déchirement parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'échec. J'ai été conditionnée pour jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et finalement, non, ce n'est pas la mort qui nous a séparés. Et donc, il y a un sentiment d'échec de ne pas avoir été à la hauteur des deux côtés, hein, généralement.
Alors, se déchire parce qu'on en veut à l'autre ou on s'en veut à soi? Tu en es voulu à toi ou à l'autre, Rita?
Alors, les deux. Moi, j'ai eu la sagesse, la sagesse entre guillemets, d'en vouloir aux deux. Après, quand la colère passe, tu te dis mais mon Dieu, heureusement que c'est arrivé, parce que c'est après que tu passes par toute cette impasse et ce machin un peu serré, un peu tu te contorsionnes pour redevenir quelqu'un d'autre. Et quand tu te réinventes, finalement tu remercies l'autre, tu lui dis mon Dieu, merci. Merci d'avoir accepté de te séparer de moi, ou merci de m'avoir demandé de me séparer de toi, parce que finalement c'est un cadeau. Je peux imaginer que pour les gens qui sont en plein dedans aujourd'hui, ils peuvent se mettre en colère contre moi parce que je dis ça, en pensant que je ne suis pas empathique, que je ne sais pas ce que c'est. Mais voilà.
Comme ça t'a pris combien de temps pour arriver à cette conclusion?
Oh, deux bonnes années.
Ouais.
Deux ans, et des fois, tu as des petites pointes comme ça qui remontent de colère. Et puis après, je pense que quand on arrive à être aussi des amis dans le couple, on arrive à sourire à posteriori à tout ce qui s'est passé. On arrive à sourire parce qu'on garde de l'affection pour la personne qui généralement est le papa de nos enfants, qu'on aime, ou la maman de nos enfants. Et on arrive à trouver un petit lieu à l'intérieur de soi où on sourit en se disant « Ah mon Dieu, qu'est-ce que c'était mignon finalement !» Finalement, l'autre recherchait ça, L'autre était en souffrance aussi. Mmh. Et je crois que c'est ça qui fait que ça s'aplatit un peu à l'intérieur. Voilà.
Alors,
mais je pense qu'il faut se réinventer, que ce soit professionnellement, personnellement, socialement. Il faut absolument accepter, faire le deuil de l'identité qu'on a construite, de qui on était. On n'est pas que cela.
Complètement.
Voilà.
Complètement. Rita Tahri, justement, est-ce qu'aujourd'hui tu penses, parce que bon, toi, ce divorce, tu l'as vécu après 40 ans, après l'âge de 40 ans, on est bien d'accord?
Absolument.
Voilà.
Je l'ai vécu en même temps que ma préménopause.
Que ta préménopause, c'est ça.
Ouais.
C'est ça. Et aujourd'hui, en fait, enfin, il y a encore quelques années, encore 10, 15 ans, 20 ans, on n'entendait pas les couples passer l'âge de la quarantaine divorcer. Sa fille. C'était soit avant, soit c'était jusqu'à la mort. Et là, on assiste à une nouvelle génération en fait, de couples qui vit différemment. Toi, en tant que femme, mais aussi en tant que thérapeute, est-ce que tu penses que l'après 40 ans est devenu l'âge le plus sensible pour les couples?
Alors oui, c'est l'âge le plus sensible. D'après mon expérience, d'abord parce que les enfants grandissent et quittent le cocon familial. Donc, si tu veux, il y a un face-à-face dans le couple qui se fait. C'est un face-à-face qui, si tu veux, qui n'a pas eu lieu depuis longtemps, parce qu'il y a toujours eu les enfants entre un homme et une femme, en tout cas dans un couple. Et puis, ils partent. Donc, il y a un espace, il y a un vide. Donc, quand il y a un vide... l'être humain a tendance à toujours chercher sa place. Donc, comme il y a un vide, c'est comme, tu sais, le jeu des chaises musicales, on change de chaise. Il y a un mouvement qui se fait dans le système familial. Et là, il y a ce face-à-face et on se pose des questions en se disant, mais moi, je suis une jeune vieille, ou lui, je suis un jeune vieux. Aujourd'hui, entre 45 et 50 ans, nous sommes de jeunes vieux. Nous commençons une deuxième vie, finalement. Puisque avec le progrès de la science, de la médecine, etc., on vit plus longtemps. Je pense qu'il y a un siècle, quand on arrivait à 45 ou 50 ans, on était en fin de vie. Finalement, ça n'a plus rien à voir du tout. Et donc, ce face-à-face-là, cette recherche de nouvelles places, parce que les enfants quittent le cocon, puis souvent, nos parents aussi commencent à vieillir à l'âge auquel nous arrivons à cette période-là. On s'occupe de nos parents, on voit le temps passer, la vieillesse arriver. Et si tu veux, c'est quelque chose de l'ordre, encore une fois, du sens qu'on veut donner à notre vie, qui se repose à nous, s'impose à nous.
Alors, en tant que femme, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre, en fait. Si c'est ce besoin aussi, peut-être que tu as eu ce besoin de donner du sens à ta vie, pourquoi la séparation va être autant déchirante, alors que c'est un choix?
Oui, oui. Alors, qui a dit que les choix ne sont pas douloureux, dans le sens où quand tu fais un choix, tu renonces à quelque chose.
Bien sûr.
Tu renonces à... Eh bien oui, il y a tout ce
statut. Oui, mais quand tu arrives au choix de vouloir te séparer, de vouloir divorcer, c'est que tu as pesé le pour, le contre.
Absolument.
Tu as eu toutes ces conversations avec toi-même, dans l'absolu, toi-même, la personne, dans l'absolu, pas toi forcément. Et tu arrives avec une décision qui est prise. Et donc,
absolument,
à la limite,
absolument,
ce deuil de ce couple, de qui tu étais, etc., tu l'as fait, mais tu vas me dire, le vivre, c'est différent que de le penser.
Et oui, mentalement, bon, c'est ce qu'on disait au début de notre échange, c'est qu'au début, on pense vraiment qu'on a un objectif, on le fixe, on se construit le chemin, on y va tout droit. Et ben, tu sais, il y a la nostalgie, il y a ce deuil, il y a ce je renonce à quelque chose avec le choix que je fais. Dans ce choix que je fais, eh bien, j'ai des moments un peu d'euphorie, de joie, de paix, mais j'ai aussi des moments où il y a des choses qui me manquent. Et moi, j'ai l'honnêteté de te le dire aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le déni, qu'il y a des choses qui ne leur manquent pas. Et c'est pas possible. On a vécu avec ces personnes-là. On a vu nos enfants faire leur premier pas, leur premier jour d'école. On a eu des vacances ensemble. On tombe sur d'anciennes photos. Il y a des choses comme ça de l'ordre des réminiscences, de la nostalgie qui vient te pincer. Tu vois, c'est vraiment le terme qui me vient comme ça à l'esprit.
Aujourd'hui, comment ça va, Rita?
Moi, je vais très très bien. Je vais très bien, j'ai des petits moments de pincement, Et ce qui est très bien aussi, ça veut dire que ce à quoi j'ai renoncé, c'était bon.
Oui.
Ce pincement d'aujourd'hui, c'est parce que ce que j'ai laissé, c'était joli aussi. Il y avait des choses très jolies aussi. Et je me donne à fond professionnellement. Entre-temps, ma fille s'est mariée et j'ai une nouvelle identité. Je suis grand-mère depuis quelques mois.
Oh, beaucoup c'est haute.
Et la vie continue, voilà,
ouais.
Tranquillement. Et voilà, quoi. Il y a des jours avec et des jours sans, mais grosso modo, la vie nous veut vivants. Voilà,
ouais,
tout
ouais,
simplement.
Ouais. L'arrivée de ce petit bébé, justement, a créé une nouvelle place aussi.
Ouais. Une nouvelle place, encore une fois, des petites réminiscences de la beauté de la maternité aussi, de construire un lien avec quelqu'un de nouveau qui arrive, qui est dans la sanguinité avec toi. Franchement, ça, on pourrait faire un autre échange, toi et moi,
ouais,
sur le sujet, parce que c'est une superbe étape pour celles qui ont la chance de vivre ça, quoi.
Avec plaisir.
C'est mignon, les bébés.
Oui.
C'est mignon.
Sur cette petite touche mignonne, on va se quitter. Merci beaucoup, Rita Tahere, d'avoir été ma femme d'aujourd'hui. Merci beaucoup.
Merci, merci pour l'honneur fait. Merci beaucoup, Yasmine.
Je t'embrasse très fort.
À très vite.
Au revoir. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Médien Podcast et les plateformes de podcast habituelles.